Donc on va passer à Guillaume Duval sur l'Allemagne et on reprendra tout ça dans le débat.
Oui, bonjour. Et tout d'abord, merci à Michel Berry, à l'École de Paris, pour cette invitation à discuter des questions qui sont effectivement très importantes pour nous, à Alternative économique, depuis très longtemps, et avec des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous pour en débattre. Alors, sur l'Allemagne, oui. Donc l'idée aujourd'hui s'est imposée en Allemagne comme en France, comme en Europe, que si l'Allemagne s'en sort industriellement aujourd'hui, c'est beaucoup grâce aux réformes Schröder du début des années 2000. Donc j'ai écrit ce bouquin parce que je pense que c'est pas vrai, que c'est plutôt malgré Schröder que l'Allemagne s'en sort moins mal que les autres aujourd'hui, notamment sur le plan industriel. Donc Schröder, c'est la première fois que la gauche arrive vraiment au pouvoir en Allemagne. Hein, donc les Français considèrent souvent l'Allemagne comme un pays social-démocrate. C'est faux, hein, c'est un pays conservateur qui a été géré par la droite quasiment pendant 140 ans qu'il existe, par l'extrême droite parfois, comme vous le savez. Là, avec Schröder, c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir en Allemagne. Vraiment avec une majorité absolue tout seul. Et donc le miracle, c'est qu'effectivement, en 7 ans de gouvernement de gauche, Schröder a réussi à faire de ce pays qui était moins inégalitaire et où il y avait moins de pauvreté qu'en France du temps où il était géré par les conservateurs, un pays où il y en a plus. Et c'est pour ça que tous les gens de droite et tous les patrons de France et d'Europe l'admirent. Alors est-ce qu'en faisant ça, il a rendu un service à l'Allemagne? Je ne crois pas. Je pense qu'en faisant ça, il a affaibli un des points forts majeurs de l'Allemagne, qui était sa cohésion sociale liée à un faible niveau d'inégalité jusque-là. J'ajouterais qu'avec le type de politique qu'il a menée, il a effectivement exercé une très forte pression sur les dépenses publiques. Mais du fait qu'il a exercé cette pression sur les dépenses publiques, il a empêché l'Allemagne de résoudre un de ces problèmes que les sociaux-démocrates avaient promis de résoudre, qui était le problème démographique, en mettant en place des crèches et des écoles qui accueillent les enfants toute la journée. Madame Merkel est en train de régler ça aujourd'hui, mais ce n'est pas indifférent qu'elle vienne d'Allemagne de l'Est sur ce plan-là. Mais en tout cas, Schröder ne l'avait pas fait. L'autre chose qu'il avait fait, c'est qu'en exerçant cette pression sur les finances publiques très forte, il avait aussi fait que l'Allemagne est le pays de l'OCDE qui est en état de désinvestissement public depuis le début des années 2000, c'est-à-dire que le niveau des investissements publics ne couvre pas l'usure des infrastructures publiques. Il y avait, il y a quelques semaines, un article du quotidien conservateur Die Welt qui faisait le point sur l'état catastrophique des infrastructures allemandes. Alors l'Allemagne, c'est un pays, il y a du stock, c'est pas totalement en ruine, mais c'est vrai que chez nous, on aurait pu sans doute se passer de quelques ronds-points et quelques hôtels de région auraient pu être un peu moins luxueux. Mais je crois pas que ce soit quand même un type de politique qui prépare bien l'avenir du pays. J'ajouterais, pour terminer sur le cas Schröder, que c'est quelqu'un qui a quand même ajouté 390 milliards d'euros de dette publique à la dette publique allemande. C'est très marrant de voir que cette période est considérée aujourd'hui comme un modèle de gestion des finances publiques. Que ce soit sur le plan de l'emploi, des revenus ou des finances publiques, il n'y a vraiment pas photo entre Schröder et Jospin, par exemple. Jospin a beaucoup mieux géré les finances publiques françaises que Schröder les finances publiques allemandes. Alors, il n'en reste pas moins que c'est indéniable que l'industrie allemande s'est bien redressée, l'économie allemande s'est bien redressée après le départ de Schröder du pouvoir, qu'elle a mieux résisté que les autres à la crise actuelle. Bon, je pense qu'il y a à ça des raisons très anciennes que vous connaissez, donc la décentralisation, le fait que le pays soit beaucoup plus équilibré que le nôtre, donc ce qui fait que notamment il a besoin de moins de dépenses publiques pour fonctionner. Hein. Donc on a cité l'exemple du Limoges, de la Creuse, etc. Ça n'existe pas, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions en Allemagne, même après la réunification. Donc l'Allemagne, si vous voulez, c'est un pays où il y a 80 villes de plus de 100 000 habitants. Nous, on en a 41. L'Allemagne, c'est un pays où il y a 14 villes de plus de 500 000 habitants. Nous, il y en a 4. Donc c'est un pays où sur tout le territoire, il y a du capital financier, mais surtout du capital culturel, surtout de la densité d'entreprises qui permet d'entreprendre, de créer des entreprises, de créer des activités. Quand une région dans une activité va mal, il y en a une autre qui prend le relais dans un autre domaine, etc. etc. Donc ça, c'est un premier point qui est bien connu. Le deuxième a déjà été évoqué, c'est la question de la formation. Mais effectivement, si 45% des Allemands acceptent de démarrer la vie professionnelle dans l'apprentissage, c'est parce que ça représente tout à fait autre chose que chez nous. C'est pas du tout une voie de garage. Quand on est parti dans l'apprentissage, on peut d'une part
va reprendre des études derrière. Donc Schröder, j'en ai dit du mal, mais c'est un gars qui a démarré comme apprenti à vendre de la porcelaine sur les marchés, qui est devenu avocat derrière et qui est devenu chancelier. Il n'est pas passé par la promotion Voltaire. Donc effectivement, le cas du patron de Mercedes, le précédent, est celui qui a été décrit tout à l'heure. Donc simplement, quand on dit en France on va copier les Allemands sur l'apprentissage, il faut bien comprendre que ça ne peut marcher que si on copie aussi ce qu'il y a derrière en termes de promotion interne dans les entreprises, de sortie du système de caste qui fait qu'aujourd'hui, c'est le diplôme initial qui définit la vie et la trajectoire professionnelle des Français par la suite. Troisième chose qui est bien connue aussi, c'est l'aspect Mitbestimmung, donc le fonctionnement des entreprises. Donc les aspects les plus connus, c'est que en Allemagne, les comités d'entreprise ne sont pas consultés pour avis, mais ils doivent donner leur accord sur la plupart des décisions managériales importantes, ce qui change un peu les choses par rapport à la situation française. L'autre chose qui est bien connue et qui existe en Allemagne, c'est que dans les entreprises de plus de 2000 salariés, la moitié des membres des conseils de surveillance sont des représentants des salariés à côté d'une moitié de représentants des actionnaires. Donc on est en train de prendre à dose très homéopathique un tout petit peu le même chemin. Donc on va en mettre un ou deux en France. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est encore très très loin de la situation allemande. J'ajouterai un troisième point qui est moins connu et moins souligné, mais qui à mes yeux est tout à fait essentiel, c'est qu'en Allemagne, le PDG n'existe pas. C'est-à-dire le monsieur qui, parce qu'il sort d'un cabinet ministériel après avoir fait l'ENA, se retrouve à la tête d'une grande entreprise qui vend de l'eau et des services publics locaux, qui ne trouve pas ça rigolo, qui préférerait avoir un appartement à New York et être à la tête d'une major d'Hollywood, ça ne peut simplement pas exister en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, enfin, en tout cas, il ne peut pas s'imposer et mener sa politique comme c'est le cas en France, parce qu'en Allemagne, il y a toujours un conseil de surveillance d'une part, un directoire d'autre part. Vous avez deux chefs dans une entreprise, ils doivent déjà se mettre d'accord tous les deux avant de faire quoi que ce soit de significatif. L'existence du PDG et l'absolutisme de ses pouvoirs en France est, je crois, un des facteurs majeurs de nos difficultés industrielles notamment. Donc ça, c'est des choses très, très anciennes, très traditionnelles. Il s'est passé trois choses, je pense, supplémentaires qui expliquent le redressement de l'industrie allemande dans les années 2000. La première, c'est que l'Allemagne a beaucoup profité de son déclin démographique. Je sais que les Français considèrent en général que c'est vachement bien d'avoir plein de gamins, plein de jeunes et tout. C'est vrai que ce sera peut-être bien dans le futur, mais dans l'immédiat, ça coûte très cher. Il faut les nourrir, les loger, les habiller, leur payer des téléphones portables, les soigner, les éduquer. Ça fait plein de dépenses privées et publiques supplémentaires que les Allemands n'ont pas eu à supporter grâce à leur déclin démographique. Et ça a eu un impact aussi extrêmement fort sur un autre domaine. Donc il y a d'autres raisons que Pierre-Noël a déjà citées au fait que les Français investissent beaucoup dans l'immobilier. Mais quand même, la dimension démographique est importante. Donc l'Allemagne, c'est un pays qui a perdu au moins 500 000 habitants depuis le début des années 2000. Là, on vient de découvrir qu'ils en avaient perdu 1,5 million de plus. Je ne sais pas quand est-ce que c'était, mais donc il a perdu au moins 500 000 habitants depuis le début des années 2000. La France, c'est un pays qui en a gagné 5 millions. Ça s'est traduit notamment, avec d'autres choses, par une pression très forte sur les prix de l'immobilier, donc qui ont été multipliés par 2,5 en France, qui n'ont pas bougé en Allemagne jusqu'à ces 2-3 dernières années. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans un ratio de 1 à 3 sur les prix de l'immobilier entre la France et l'Allemagne. 1 300 € du mètre carré un logement neuf en 2011 en Allemagne, 3 800 € en moyenne en France en 2011. Donc ces écarts de coûts et d'évolution des coûts du fait de la démographie déclinante, c'est ce qui explique à mes yeux beaucoup plus que tout le reste le fait que les Allemands aient supporté pendant toute la décennie une austérité salariale beaucoup plus poussée que chez nous, parce que c'est moins difficile dans un contexte comme ça. La deuxième chose, c'est que l'Allemagne a profité. Alors les Allemands pleurent beaucoup sur le coût de la réunification, et que c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aider les Grecs, les Portugais et tout ça. C'est vrai que ça a coûté cher, que ça a été compliqué cette affaire. Ça a été aussi une opportunité à certains égards pour l'Allemagne, à la fois en termes de marché intérieur supplémentaire, de possibilité de greenfield dans un certain nombre d'industries, et de possibilité de promotion pour les gens de l'Ouest qui ont pris des postes à l'Est, etc. Et en plus, on a bien profité du coût de la réunification, nous aussi, grâce à la politique pas très coopérative menée par la Bundesbank au début des années 90 et la récession de 93 et la crise de derrière. Mais c'est vrai que ça a coûté cher et que ça a été compliqué. Mais au bout du compte, l'Allemagne est quand même le grand gagnant de la chute du mur, parce que ça leur a permis de réintégrer très fortement et très rapidement les pays d'Europe centrale et orientale dans leur tissu productif. Si vous voulez, avant la chute du mur, le pays à bas coût qui fournissait l'industrie allemande en sous-traitance, c'était la France. Après la chute du mur, c'est la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui encore un écart de 1 à 5 sur le coût du travail entre la Pologne et la France. C'est-à-dire que ça a permis un avantage compétitif massif à l'industrie allemande sur le marché mondial. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi ça s'est bien passé, c'est-à-dire pourquoi ils ont fait ça. Ils ont beaucoup délocalisé, ils ont beaucoup sous-traité à l'Est, tout en gardant une base productive solide à l'Ouest. C'est grâce à la codétermination, c'est-à-dire que c'est un truc auquel Schröder n'a pas eu le temps de toucher, heureusement. Et donc, il a fallu négocier ce mouvement avec les syndicats allemands dans chaque entreprise, et c'est pour ça qu'il est resté des usines en Allemagne tout en faisant ça. Il n'y a pas eu de monsieur Tchourouk pour dire qu'on allait faire des entreprises sans usines grâce à ça. La troisième chose dont a bénéficié l'Allemagne avant la crise, c'est une spécialisation très forte dans des domaines très particuliers qui correspondaient tout à fait à l'explosion de la demande des pays émergents. Le premier de ces domaines, c'est les machines. Je crois que c'est une chose qu'on ne souligne pas assez en France, mais la vraie spécialisation de l'Allemagne, à mes yeux, c'est d'abord dans les biens d'équipement. C'est qu'ils ont gardé des industries parce qu'ils continuent à produire des machines qui vont dans ces industries, ce qui n'est pas du tout notre cas. L'Allemagne, c'est 18% de l'emploi en Europe en moyenne. Dans le secteur des biens d'équipement, des machines et des équipements électriques, c'est 33% de l'emploi, un tiers. La France, c'est 12% de l'emploi en Europe en moyenne. Dans le secteur des machines, c'est 8%. C'est 4 fois moins que l'Allemagne. Donc quand les usines poussent comme des champignons en Inde, au Brésil, en Chine, etc., c'est des machines allemandes qu'on installe. Quand Renault construit une usine à Tanger, c'est des machines allemandes qu'ils installent. Je crois que c'est important, en particulier pour la discussion qu'on a déjà abordée sur les ETI. Je crois qu'elle est très très mal posée en France parce qu'on la pose uniquement sous l'angle du nombre de salariés, comment faire pour que nos boîtes de 20 passent à 50 et que nos boîtes de 50 passent à 200, etc. C'est pas ça la question. Je pense que les boîtes allemandes ETI exportent parce que c'est des boîtes dans le secteur des biens d'équipement. Quand vous êtes le fabricant d'une machine qui fait telle chose dans tel processus industriel, vous pouvez être le roi du pétrole avec 300 personnes, vous pouvez livrer la Chine, l'Inde, le Brésil. Si vous essayez de faire la même chose dans l'agroalimentaire ou dans la sous-traitance automobile, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que nos PME de la sous-traitance automobile ou nos PME de l'agroalimentaire passeront de 50 à 300 personnes qu'elles exporteront quoi que ce soit. C'est parce que c'est dans les machines que ça marche. L'autre truc qui est bien connu, c'est les voitures de luxe. Donc quand une part même faible des 1,3 milliard de Chinois devient suffisamment riche pour s'acheter ou plus souvent se faire acheter par l'État ou par son entreprise une grosse voiture, ils achètent des BMW, des Mercedes et pas des Renault et des Citroën. Donc ça n'a strictement rien à voir avec Schröder, mais c'est ce qui, à mes yeux, explique d'abord ce qui s'est passé, enfin les succès allemands dans les années 2000. Si j'ai encore quelques minutes, je voudrais juste vous dire quelques mots sur ce qui s'est passé depuis la crise. Il s'est passé trois choses aussi qui ont favorisé l'Allemagne. La première chose, c'est que les réformes Schröder du marché du travail n'ont absolument pas fonctionné. Donc Schröder, c'était quelqu'un qui admirait beaucoup Blair, Clinton, qui voulait rapprocher le fonctionnement du marché du travail allemand du fonctionnement du marché du travail anglo-saxon, Hire and Fire. Et donc il a mis en place différentes choses pour ça. Mais ce qui s'est passé pendant la crise en Allemagne, c'est que ça n'a absolument pas marché. C'est-à-dire que les Allemands ont eu une récession à peu près deux fois plus forte que la nôtre en 2009. Ils ont licencié personne. Nous, on a perdu 350 000 emplois. Ils se sont débrouillés, comme d'habitude, en interne, avec le chômage partiel, les accords dans les boîtes, etc., etc. C'est de la flexibilité purement interne, pas du tout externe. Et c'est pour ça que le marché intérieur allemand a tenu le choc, enfin la demande intérieure allemande a tenu le choc. C'est pour ça que quand les Chinois ont relancé les affaires, ont reconstruit des usines partout, ils se sont remis à acheter des machines allemandes, l'industrie a pu repartir tout de suite puisqu'il n'y avait pas besoin d'embaucher et de former. La deuxième chose qui s'est passée depuis la crise, c'est que l'Allemagne bénéficie aujourd'hui de taux d'intérêt extrêmement bas, négatifs pour l'essentiel, c'est-à-dire que c'est les investisseurs qui payent l'État allemand pour avoir le droit de détenir sa dette. La crise a été une très bonne affaire pour l'État allemand. Ça représente 70 milliards d'euros. Si l'Allemagne avait dû payer les mêmes taux d'intérêt qu'en 2008 sur sa dette, elle aurait payé 70 milliards d'euros de plus entre 2008 et 2012. Les Français aussi, hein. Mais pour l'Allemagne, ça représente ça. Les Allemands pleurent beaucoup sur l'argent qu'ils doivent donner aux Grecs, aux Portugais, etc. Pour l'instant, ils sont engagés qu'à hauteur de 55 milliards d'euros dans le cadre du FESF. Et c'est des prêts qui rapportent 4%, dont l'essentiel sera remboursé. Donc ça a été une bonne affaire pour l'État allemand jusqu'ici, la crise. Mais ça a été aussi une très bonne affaire pour les ménages et pour les entreprises allemandes, puisqu'ils bénéficient de taux d'intérêt très bas. Pour les ménages, c'est pour ça qu'ils sont en train de découvrir les joies de la bulle immobilière et que les prix de l'immobilier sont en train de monter. Mais la troisième chose dont a bénéficié l'Allemagne depuis la crise, c'est la seule bonne nouvelle, et l'industrie allemande en particulier, c'est la seule bonne nouvelle qui a amené cette crise, à savoir une baisse de l'euro par rapport au dollar. À mes yeux, ce qui a vraiment liquidé l'industrie française, italienne, espagnole, etc., pendant la décennie 2000, c'est d'abord et avant tout la montée de l'euro par rapport au dollar. Il avait démarré à 0,9 en 2000, il était monté à 1,6 en 2008. C'est un énorme choc de compétitivité, comme on dit de nos jours. ça s'est traduit par le fait que l'heure de travail d'un ouvrier, enfin d'un salarié français de l'industrie valait 14% de moins que celle d'un Américain en 2000. Elle en valait 17% de plus en 2010. L'écart est encore un peu plus grand avec les Japonais. Mais surtout, l'écart s'est produit dans le même sens avec les Coréens, avec les Taïwanais, avec la plupart des pays émergents. Donc l'heure de travail d'un salarié coréen de l'industrie valait 46% de l'heure de travail d'un ouvrier français en 2000, elle n'en valait plus que 41% en 2010. Donc, malgré les fortes hausses de salaire qu'il y a eu dans ces pays-là, du fait que leurs monnaies sont indexées sur le dollar et pas sur l'euro, l'écart s'est creusé. Alors, ça a entraîné la désindustrialisation partout. Tout le monde s'en est fichu à ce moment-là parce que ça n'a pas que des avantages quand l'euro est fort. Ça veut dire que le gaz et le pétrole qu'on achète sont pas chers. Ça veut dire que les iPhones, les iPads qu'on fabrique pas, ils valent pas cher, etc., etc. On a laissé faire pendant tout ce temps-là. Mais malgré tout, c'est ça d'abord qui explique la désindustrialisation. Et c'est vraiment extraordinaire que l'Allemagne y ait résisté. Mais c'est pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, plus que pour les réformes Schröder. Par contre, ce qui s'est passé dans la crise, c'est qu'une des seules bonnes nouvelles, c'est qu'on a tellement mal géré l'euro qu'il a baissé un peu par rapport au dollar et qu'il n'est plus qu'à 1,30 aujourd'hui. Il faudrait aller plus loin pour réindustrialiser un peu l'Espagne, le Portugal, etc. et ramener quelques touristes en Grèce. Je ne parle pas de réindustrialiser la Grèce. Qu'ils n'aillent pas tous en Turquie. Il faudrait aller vers la parité à nouveau. Mais enfin, dans l'immédiat, c'est déjà bien. Et le problème, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, mais le fait, c'est que c'est d'abord l'industrie allemande qui en a profité. C'est-à-dire que comme c'était eux déjà qui exportaient le plus hors de la zone euro, c'est eux qui ont le plus profité de cet ajout de compétitivité coût du fait de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Si vous voulez, en gros, l'excédent extérieur allemand, c'était 170 milliards d'euros en 2007. Il était fait aux trois quarts sur la zone euro et un quart hors zone euro. L'excédent extérieur allemand l'an dernier, c'était 180 milliards d'euros. Il était fait aux trois quarts hors zone euro et un quart sur la zone euro. C'est-à-dire que grâce à la baisse de l'euro par rapport au dollar, les industriels allemands ont réussi à plus que compenser en exportation supplémentaire hors de la zone euro ce qu'ils ont perdu dans la zone euro du fait de la crise de la zone euro. C'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, les Allemands n'ont rien fait pour essayer de résoudre la crise de la zone euro. Alors je ne dis pas que Mme Merkel fait exprès de la faire traîner pour continuer à avoir des taux d'intérêt plus bas que les autres et que l'euro soit pas trop cher pour exporter en Chine, au Brésil, etc. Mais simplement, il n'y avait aucune pression sociale en Allemagne même pour faire quoi que ce soit de décisif pour résoudre la crise de la zone euro. Et au contraire, ils ont beaucoup aggravé la crise parce que, comme ils ont le sentiment que c'est grâce à Schröder qu'ils en sortent moins mal que les autres, ils ne peuvent pas comprendre qu'il faudrait aider les autres s'ils ne subissent pas le même type d'épreuve que ceux qu'eux-mêmes ont subi avec Schröder. Schröder, ça a été vachement dur. Ils ont perdu du pouvoir d'achat, ils ont perdu de l'emploi. Ce n'est qu'en 2010 que l'Allemagne a retrouvé son niveau d'emploi de 2000, si on tient compte seulement des vrais emplois, ceux qui payent des cotisations sociales. Donc ça a été très dur pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre que les autres, qu'ils doivent aider les autres sans que les autres souffrent au moins autant qu'eux avec Schröder. Simplement, Schröder n'avait pas eu de conséquences plus graves et plus négatives pour l'Allemagne et pour l'Europe, uniquement parce que les Allemands étaient seuls à faire ça à ce moment-là. Si on s'y met tous ensemble, on tue l'Europe, comme ça risque de se produire, parce que le chômage explose, parce que les tensions xénophobes racistes montent, parce que les replis nationalistes deviennent populaires. Et en plus, on n'arrive pas du tout à se désendetter, puisque personne n'a jamais pu se désendetter quand il était en récession. Donc, bon, il y a des choses qui ont l'air de changer en ce moment, mais comme j'ai déjà été très long, je laisse ça pour la discussion.